Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonjour et Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Alors Rav Lemel, on arrive à la parashat Tazria et ben, c'est celle qui...
Tazria et Metzora, attention.
Tazria et Metzora, elles vont souvent ensemble d'ailleurs, pas toujours, mais généralement elles sont ensemble. Et ben, c'est celle qui parle du Lashon Hara, vous savez, avec, on se souvient tous... avec ce qu'on appelle la tzarat, cette espèce de maladie de la peau qui touche celui qui fait du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est la médisance, dire du mal, colporter des choses, etc. Et je vais vous dire franchement, Rav Lemel, c'est pour moi l'une des plus grandes surprises, je ne sais pas comment dire ça, les plus grandes interrogations concernant la Torah. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme quelque chose d'aussi grave? Je ne cherche pas à dire que ça n'allait pas, mais dire du mal de quelqu'un, ce n'est pas comme le tuer, ou peut-être que si. Et d'ailleurs, c'est de ça que vous voulez dire du mal de quelqu'un. Je crois que c'est peut-être même le péché le plus partagé. Donc, c'est quoi cette énigme de la médisance?
Exact. C'est vrai qu'on est ici face à des enseignements des maîtres du Talmud, de la Gemara, qui sont très bouleversants, puisqu'ils vont nous dire, entre autres, que vous savez qu'il y a trois, ce qu'on appelle les interdits primordiaux, qui sont Avodazara, Gilouya Rayot ou Shfichut Damim, c'est-à-dire l'idolâtrie, des mœurs dissolues et le meurtre. Et on nous dit, ben, le Lashon Hara, la médisance, c'est pire que les trois. Ouh. Alors évidemment, c'est très bouleversant et il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue là-dedans. Et puis après, est-ce qu'il y a au fond une manière, non pas de se retenir, mais de faire en telle sorte que l'idée même d'en dire ne nous effleure plus? Alors, tout d'abord, on va s'arrêter sur pourquoi. Évidemment, c'est une explication fragmentaire parce qu'il y a énormément de choses, mais si on réfléchit, tuer quelqu'un, il y a un mobile. Mauvais, mais il y a toujours un mobile. Des mœurs dissolues, il y a un mobile, évidemment, le plaisir qu'on veut en retirer. Avodah Zarah, c'est se tourner vers d'autres divinités, c'est-à-dire se désinscrire de la loi de la Torah pour peut-être vivre ce qu'on a envie de vivre sans aucune forme de culpabilité. Dans ces trois choses-là, il y a quand même un intérêt pour la personne. Le Lashon Hara, comme dit le texte, Ma Yitron, le Baal HaLashon. Qu'est-ce que celui qui fait de la médisance va-t-il tirer? Alors bien sûr, il y a des cas relativement rares dans lesquels on va faire du Lashon Hara sur son concurrent parce qu'on pense qu'on va en retirer un bénéfice, mais de manière générale, et on le sait pertinemment, la médisance, eh bien, c'est autour d'une table, dans une rencontre, au téléphone, au fait, est-ce que tu es au courant, etc., etc. Et évidemment, la première chose ici, c'est qu'on est dans un acte totalement gratuit, un acte qui est bouleversant. Vous savez, comme vous l'avez évoqué, à l'époque du Temple, celui qui avait dit la médisance avait une petite tache sur son corps. Ça faisait pas mal. Et d'ailleurs, réfléchissons un instant. Si je suis à l'époque du Temple et que je ne suis pas croyant, ou alors que je considère que tout ça, c'est du n'importe quoi, la Torah et les mitzvot, je vous garantis que la personne qui n'y croit pas vraiment et qui pense que tout ça, c'est du folklore, lorsqu'elle verra cette petite tache, surtout si celle-ci ne pose aucun problème médical, pourquoi vous voulez qu'elle aille voir le prêtre au Temple de Jérusalem pour savoir si c'est ça qui lui arrive et qu'elle mette en place un processus de purification? Il faut croire que la personne y croit. Il faut croire que la personne est ce qu'on appellerait aujourd'hui religieuse, pratiquante, qu'elle est croyante. Donc déjà, on est en train de nous dire, tu sais, le Lashon Hara, ce n'est pas parce que tu es croyant, pratiquant, voire religieux, voire orthodoxe, enfin, j'aime pas ces mots, vous le savez, eh bien, ça touche tout le monde. Ne t'imagine pas que quelqu'un qui est engagé dans une démarche spirituelle, pratiquante, eh bien, ne tombera pas là-dedans. Première chose. Seconde chose, c'est que le Lashon Hara, eh bien, on découvre donc à l'époque du Temple avec cette petite tache, c'est pas grand-chose. Mais lorsque le Kohen, le prêtre, dit « Eh bien, oui, c'est bien de la tzaraat, C'est bien en effet cette affection de peau qui révèle que tu as fait du Lashon Hara. On sort du camp. On sort du camp, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a une énorme conséquence. Donc déjà, ça nous renseigne un petit peu sur le fait que ce n'est pas la religiosité qui nous empêchera de faire de la médisance et que la médisance, c'est eh bien, quelque chose, on pense que ce n'est pas si important que ça. Mais les conséquences peuvent être incalculables. Ça, c'est déjà pour mieux comprendre le cadre et ce qui se joue à l'intérieur de cela. Et évidemment, la difficulté, c'est que le Lashon Hara, une fois que la parole a été exprimée, on ne peut pas la rattraper. Vous savez, cette fameuse image, cette belle histoire de la rabbinite Jung Reis, qui dit qu'un homme vient un jour chez son rabbin en lui disant qu'il regrette d'avoir fait beaucoup de médisances, qu'il veut réparer, et le rabbin lui dit, eh bien, tu as un système, tu vas dans le village, et tu prends un coussin avec des plumes, et tu mets une plume devant la porte de chacune des maisons, puisque tu as parlé dans le village. Et il revient, il lui dit, je l'ai fait. Le rabbin lui dit, maintenant, tu attends 10 minutes, et dans 10 minutes, tu vas y récupérer la totalité des plumes. L'homme repart 10 minutes après, revient désespéré quelques instants suivants, en disant, mais Rav, elles se sont toutes envolées. Et le rabbin de lui dire, c'est ça le problème, tu veux réparer, c'est trop tard, les mots sont sortis, les mots sont partis, comment veux-tu rattraper une parole qui t'échappe maintenant sans aucune forme de contrôle? Et le texte nous le dit d'ailleurs de manière très intéressante, puisque Achaim v'amavet beyad halashon. Ce texte est très curieux parce qu'il veut dire « Hachaim, la vie, v'hamavet » et la mort, « beyad » dans la main, « halachon » de la langue. Très curieux, « balachon » dans le langage, pas du tout. La main se dit en hébreu « yad ». Et quand vous prenez les deux lettres du mot « yad » et que vous les inversez, vous avez le mot « dai » qui veut dire « ça suffit, c'est la limite ».« Yad », c'est justement l'univers de l'illimité, c'est-à-dire de ce que je peux atteindre qui est au-delà de moi. Lorsque je vois une chose, si j'oublie que j'ai une main, je ne pourrai pas la saisir. Yad Alashon, on est en train de nous dire, sache que eh bien, ce qui sort de ta bouche, du langage, eh bien, à un moment va bien au-delà de toi, que ça soit positif ou que ça soit malheureusement négatif. Donc déjà, prendre la mesure. À partir de là, allons un petit peu plus loin. Essayons de réfléchir tout d'abord à une personne qui voudrait faire de la médisance et de lui rappeler, dis-moi, si quelqu'un s'amusait à faire la même chose, non pas pour toi, parce que vous savez, quand les gens, vous leur dites, pour moi, pour toi, ils disent, non mais moi je m'en fiche, moi c'est rien du tout. Non, non, ton frère, ta sœur, ton cousin, tes parents, comment tu le vivrais? C'est important d'essayer d'inverser les choses et d'imaginer qu'on est soi-même victime de ce que l'on est en train de faire. Ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Mais au-delà de ça, il faudrait comprendre plus avant quel est le modèle que nos Hachamim nous proposent pour pouvoir faire en telle sorte que ce besoin de parler eh bien, disparaisse et que nos paroles ne soient que des paroles positives, sympathiques, bienveillantes. Parce que c'est ça l'enjeu au fond. Rappelons-nous que la parole, c'est le propre de l'humain, qu'il y a une énergie dans le mot au-delà du message qu'il transmet. Et une parole négative, au-delà de ce qu'elle peut détruire à travers son décryptage par les autres, véhicule des énergies négatives qui sont présentes maintenant dans l'univers. Et donc, prendre la mesure de ces énergies-là, c'est aussi important. Alors évidemment, certaines personnes diront, non mais il faut que les gens sachent. Vous savez, quand quelqu'un vient me voir et dit, il faut que je te dise, posez-lui la question, j'ai besoin de savoir. Et souvent, la réponse est « oui, il faut que tu le saches. » « Non, mais est-ce que j'ai besoin ?»« Oui, mais c'est très important que tu le saches. » « Non, mais pourquoi ?» Dans l'immense majorité des cas, aucun intérêt de le savoir. Parce que ça ne changera rien à notre vie. Évidemment, si vous savez qu'une personne vole et continue à voler, et qu'elle va travailler chez quelqu'un, là, vous avez l'obligation de dire. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Vous travaillez avec une personne qui est fiable, qui est droite, qui est honnête, mais qui est peut-être un peu rigide. Et quelqu'un vient demander des renseignements sur cette personne. Vous lui dites, tu as besoin de savoir quoi? Est-ce que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter? Est-ce que c'est quelqu'un de droit et d'honnête? Vous dites, évidemment. Et peut-être que cette dimension de rigidité qui vous a posé problème dans vos relations professionnelles ne posera pas de problème à l'autre personne. Vous savez, il est important de poser la question, d'avoir des maîtres pour leur poser la question et de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, de quelle manière il faut le dire. Mais comment est-ce qu'on en arrive à ne même pas avoir envie de faire du Lashon Hara? Rav Wolben nous donne une image fondamentale, une idée, pardonnez-moi, extraordinaire. Nous savons que l'univers a été créé sur le principe du chesed, du don, de l'altérité. Olam chesed ibané. L'univers est bâti sur cela. C'est quoi au fond le chesed? Le chesed, c'est un état d'esprit qui s'exprime de la manière suivante. Lorsqu'on se lève le matin, on réfléchit à ce qu'on pourrait apporter aux univers que l'on va rencontrer. Lorsqu'on rentre à la maison le soir, on réfléchit à ce qu'on a pu apporter au monde et aux univers que l'on a croisés. En premier lieu, évidemment, l'univers de proximité, notre conjoint, nos enfants, nos proches, et puis de manière plus vaste. C'est un état d'esprit. Et donc, à partir de cela, essayons d'imaginer. Nous voyons une personne dysfonctionner. Nous la voyons. Ce n'est pas qu'on nous l'a dit. On la voit. Donc, c'est une réalité. Celui qui est Baal Chesed, celui qui a une démarche de don, c'est quoi sa première réaction intérieure? Comment puis-je l'aider? Vous voyez quelqu'un qui va dans le mur. Vous voyez quelqu'un qui fait une bêtise. Vous voyez quelqu'un qui fait une erreur. Évidemment, cette bêtise et cette erreur sont condamnables. On ne peut pas. Mais s'il fait cela, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a peut-être une absence de savoir, c'est qu'il y a peut-être un problème non réglé. Comment puis-je l'aider? Et parfois, vous allez dire, mais je ne sais pas comment l'aider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'aidera sûrement pas en le racontant aux autres. C'est-à-dire, la première manière d'aider quelqu'un qui a fait une erreur, c'est de ne pas répandre chez tout le monde ce qu'il a pu faire. Parce que, évidemment, ça fera tout, sauf l'aider. Alors, bien sûr, tout le monde pensera au cas extrême, tentative de meurtre, voilà, que sais-je. OK, alors pour ces cas-là, on va les mettre de côté. Mais beaucoup, beaucoup de situations de vie, même si elles sont répréhensibles, eh bien, on les réglera beaucoup plus facilement et on aidera beaucoup plus facilement la personne si c'est dans le one by one, si c'est en face à face, si c'est en parlant éventuellement à quelqu'un qui lui est très proche et dont on sait qu'il ne racontera personne pour lui dire « Écoute, j'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait éventuellement. » Et ça, au fond, c'est peut-être l'élément qui nous permettra de ne pas en faire. Et à la fois s'imaginer que l'on inverse les rôles et se dire « Mais comment puis-je aider quelqu'un ?» Parce que vous savez que dans l'immense majorité des cas, les dysfonctionnements sont l'expression d'un déséquilibre, d'une difficulté, de quelque chose qui n'est pas réglé. Je ne les justifie pas, évidemment, mais quelque part, en cherchant à comprendre ce qui est à la source, on peut faire un travail par rapport à cela. Et je parle même sur des choses banales. Quelqu'un, comme on dit un peu légèrement, qui se la joue, qui est là en train de raconter à tout le monde ses exploits, etc. Mais c'est quelqu'un qui peut-être va pas bien à l'intérieur de lui-même, qui a besoin d'exister à travers le regard des autres parce qu'il n'a pas conscience de sa valeur en tant que tel et qui a besoin d'exhiber sans arrêt ce qu'il fait. Eh bien, en parler aux autres, au contraire, lui fera du mal. Se dire comment on peut aider quelqu'un à découvrir qu'il n'a pas besoin de s'afficher pour exister, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et évidemment, le répandre et le dire à tout le monde ne servira à rien. Voilà une petite piste, mais qui nous aidera réellement à cela. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous, le peuple juif, on vit la conséquence du Lashon Hara, de la médisance, non pas juste de ce qui se joue dans notre peuple. Nous voyons bien tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu être et ce qui continue à être dire sur nous. Et même si c'est vrai parfois, et dans l'immense majorité des cas, ça ne l'est pas, combien ça fait du mal, combien ça change l'état d'esprit d'une population, combien ça peut transformer un système dans lequel nous sommes avec toutes les conséquences négatives. Nous le vivons tellement. Aujourd'hui, nous sommes dans un enjeu terrible. C'est qu'à l'époque, c'était les petites plumes qui étaient dans le village. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies qui peuvent propulser des paroles et, comme on l'a vu, irrattrapables avec tous leurs dégâts. Et évidemment, beaucoup de personnes se protègent en disant « Non, mais je pense que c'est très important de le dire. Super. » As-tu demandé à un maître, à une référence, à quelqu'un qui connaît bien ce genre de choses? Et après, éventuellement, on verra. Et dans l'immense majorité des cas, je peux vous garantir qu'il n'y a pas lieu de parler. Évidemment, si c'est vrai, il n'y a pas lieu d'en parler. Et a fortiori, évidemment, si c'est faux. Et parfois, on invente. On invente parce qu'on a vu une fraction de situation, parce qu'on n'en a vu qu'un moment, parce qu'on ne connaît pas tout, et parce que d'autres nous le racontent et on les croit. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il vous le dit que c'est vrai. Voilà quelques points de départ, de réflexion sur ce sujet qui est tellement capital et duquel, au passage, disent nos maîtres, dépend réellement l'arrivée du Mashiach, la notion de la Geoula, la notion de la libération du clan Israël. Essayons de créer cette vigilance, essayons d'avoir des paroles bienveillantes et positives. Lorsque quelqu'un cherche à nous parler de quelque chose, soyons capables de dire « est-ce que j'ai vraiment besoin de l'entendre ?» Et à partir de là, un état d'esprit nouveau pourra peut-être s'installer, et s'installera sûrement, j'en suis sûr, à l'intérieur de nos communautés du clan Israël.
Amen. Amen. Rav Rosenberg, vous avez expliqué pourquoi c'est si grave que ça, la médisance, mais la calomnie aussi. Et il nous avait dit, parce que ça marche. Ça qui est terrible. C'est que comme vous avez expliqué brillamment à l'instant, c'est irrattrapable, le gars ne peut pas se défendre, il n'est pas là. Mais Rav Rosenberg avait dit, mais en plus, souvent, pas toujours, mais souvent, ça marche. Et les dégâts sont, ça lui casse son business, ça lui casse sa réputation, ça peut lui casser son couple. C'est terrible la médisance, terrible, terrible, terrible. Ravi de le mettre, je vous remercie. On va essayer d'avoir des belles paroles ce soir autour de la table de Shabbat. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Bitton est en ligne avec nous à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom. Alors vous, Rav Mordechai, cette semaine, vous voulez revenir sur l'histoire de la médisance, le coup et la punition même d'ailleurs, qu'on voit dans notre paracha, qui peut accompagner cette faute. Mais vous voulez aussi dire qu'il y a un moyen de réparer, il y a un moyen de pouvoir l'éviter dans l'étude de la Torah. Rav Mordechai Bitton, je vous remercie et je vous souhaite un beau Shabbat, vous qui avez eu une semaine difficile à Jérusalem. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Oui, mon cher Bernard, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom à vous et à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Alors, on va s'intéresser à, effectivement, Parashat Tazria Metzora. Ce sont les parashas, les sections hebdomadaires, en fait, qui nous parlent de la punition qui frappe quelqu'un qui a fait donc du Lashon Hara, qui se livre à la médisance. La question qui se pose, c'est que ce Onesh, cette punition qui le frappe, une punition terrible, lèpre qui envahit complètement son corps, et cette personne est donc contrainte à un isolement absolu, total, radical, en dehors des trois camps. À l'époque où Israël était dans le désert, en dehors des trois camps, le camp du Beth Amikdash, de la Keuna, de la Villa, où il y a les vivres, et le Machane Israël, le camp où se trouvait l'ensemble du peuple juif. Pourquoi cet isolement? On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe encore aujourd'hui, finalement, avec le Lashon Hara, avec la médisance, avec cette aptitude, entre guillemets, qu'ont les gens à dénigrer leur interlocuteur, que ce soit dans le dos de cet interlocuteur ou en face, c'est-à-dire vraiment à le rabaisser, le dénigrer. En fait, chacun d'entre nous, finalement, a, entre autres, deux dimensions. Il y a une dimension qui est extérieure, qui est une dimension qui s'inscrit dans notre environnement. On a un corps, on a une prestance, on a un visage, une manière de s'habiller, une manière de parler. C'est la face extérieure de l'individu. Et il y a une face qui est une face intérieure de l'individu. Ce qu'il pense, ce qu'il intègre, ses expériences émotionnelles, sa spiritualité. Alors, il y a une spiritualité extérieure. On va prier en groupe, on va étudier la Torah en groupe, on va faire des repas de Shabbat en groupe, par exemple. Mais il y a une spiritualité intérieure. Ce sont les midot, les traits de caractère, ce que l'individu ressent, alors ça peut être négatif, la jalousie par exemple, ou alors quelque chose de très positif, un regard positif sur l'autre, comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Tov Ayin Uyevoar, quelqu'un qui a un regard de bienveillance sur l'autre, il crée la bénédiction en lui et à l'extérieur. Donc il y a deux facettes en fait chez l'individu, la facette la plus extérieure, la facette la plus intérieure. Et en fait, la personne qui dit du Lashon Hara, de la médisance, celle dont on nous dit ici que c'est un Baal Lashon Hara, c'est quelqu'un qui est en permanence dans cette posture qui consiste à parler et à dénigrer, cette personne, elle vit complètement avec la face la plus extérieure de sa personnalité. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit par rapport à l'autre. Elle a besoin d'abord de se regonfler vis-à-vis des autres. Donc elle va dénigrer des personnes pour trouver grâce aux yeux de ses interlocuteurs, ses interlocutrices. Cette personne, elle va vivre en fait aux dépens d'un autre, des autres pour lesquels elle parle, mais elle vit aussi aux dépens des personnes qui l'écoutent. En ceci qu'elle va capter leur attention et leur énergie pour dénigrer, pour démolir une image, une personnalité. Et donc, en vérité, cette personne-là, c'est une personne qui est complètement dépendante de son environnement. elle recherche en permanence la grâce de son vivant, la rigolade de ce qu'on va dire, l'adhésion à ce qu'elle raconte. Et donc cette personne-là devient complètement dépendante de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle la privation ultime que la Torah va lui donner, c'est d'être privée de l'extérieur. Et donc cette personne va être jetée en dehors du camp avec cette lèpre qui va la frapper. C'est ce dont on parle dans ces sections hebdomadaires, Tazria et Metzora. La lèpre qui va frapper le corps, la lèpre qui va frapper les vêtements, la lèpre qui va frapper la maison. Bref, cette personne va devoir complètement sortir d'elle-même. Elle sort de ses repères, elle sort de sa maison, elle sort de son espace, elle sort du camp, elle n'est plus en relation avec les autres. Son onesh, sa punition, c'est d'être privée des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est la ramener vers elle-même. Une personne qui est seule, qui est esselée et isolée, et d'autant plus s'il s'agit d'une punition infligée par la Torah, est une personne obligée de réfléchir sur elle-même, de retourner à elle-même. On voit ici cette idée sur laquelle finalement les punitions entre guillemets de la Torah sont des tikkunim, ce sont des réparations. On veut que cette personne réfléchisse d'abord sur sa pnimiyut, sur son intériorité, qui elle est, ce qu'elle est réellement. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose de plus intelligent, de plus beau à vivre d'abord dans son expérience intime et personnelle et également à partager avec les gens autour d'elle que plutôt de dire donc du lashon hara et de la médisance. Et un point qui est très intéressant, c'est que nos sages nous disent il y a une activité très positive qui permet de sortir du lashon hara. Qu'est-ce que c'est ? Le limud de la Torah. L'étude de la Torah, c'est l'inverse du lashon hara. Et là, il y a ici une surprise. Moi, j'aurais dit que l'inverse de l'étude de la Torah, c'est l'ignorance. L'inverse du lashon hara, c'est la parole de bénédiction. Dans la Mishnah de PA que nous lisons tous les matins, on nous dit qu'il y a un certain nombre de choses, le respect des parents, amener la paix entre un ami et entre des amis, entre un homme et sa femme, ce que je tente de faire régulièrement en tant que thérapeute de couple. Et tout ça, ce sont des choses qui amènent une très grande bénédiction. L'individu bénéficie de cela dans ce monde-ci et dans le monde futur. Mais l'étude de la Torah, ça a exactement le même poids que tout ça. Ça a le poids de toutes les 613 000 votes. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait du lashon hara, c'est une avéra, c'est une transgression qui a le même poids que toutes les autres transgressions. Et donc, on met en parallèle, en quelque sorte, en miroir, l'étude de la Torah et le lashon hara. Si quelqu'un s'adonne à l'étude de la Torah, eh bien, il bénéficie d'une possibilité de se défaire du lashon hara. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, elle se trouve finalement dans ce qu'est le limud de la Torah, ce qu'est l'étude de la Torah. C'est l'exercice, finalement, de la pnimiyut de l'intérieur des choses. Vous avez un verset. Très bien. Mais qu'est-ce que ce verset vous dit ? Qu'est-ce que ce verset vient vous enseigner ? Quelles sont toutes les discussions qui se sont développées tout au long des siècles autour des lois enseignées par ce verset ? Pourquoi ce verset est formulé de telle et telle manière ? Quel était le sens de la parole d'Hachem, la parole de Dieu dans ce verset ? Qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner ? En fait, étudier la Torah, c'est tout simplement pénétrer l'intérieur de la volonté divine, l'intérieur du langage divin, l'intérieur de la pensée divine. Mais c'est aussi faire une expérience d'intériorisation de l'intériorité. Quelqu'un qui a étudié la mitzvah des tfilines, de Shabbat, de prélèvement de la challah, de la tznou, de la pudeur, ne pourra plus jamais se comporter comme s'il n'avait pas intégré cette expérience-là sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, mais également sur le plan émotionnel, donc sur le plan de l'intérieur. L'étude de la Torah, c'est un voyage vers l'intériorité. Et c'est la raison pour laquelle, avant l'isolement, eh bien, il y a une autre manière de se guérir du lashon hara. C'est la vie collective autour de l'étude de la Torah. Il y a un autre point aussi, c'est que la Torah, elle s'étudie à deux. Et donc, comme disait Rav Wolbe dans Les Chours, très souvent, quand on étudie à deux, on peut avoir tort, on peut se rendre compte qu'en vérité, on n'arrive pas à comprendre tout seul. On est obligé d'avoir une bonne relation avec l'autre, qui est une relation de valorisation. C'est-à-dire que l'autre, il va m'aider à comprendre. L'autre, il vient à mon secours. Et puis, aussi, un autre point, c'est que pour étudier la Torah, il faut avoir un rave. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maître. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation verticale avec quelqu'un qui en sait plus, qui sait mieux et qui va m'enseigner quelque chose. Et d'ailleurs, l'érudit chez nous s'appelle un talmid racham, c'est d'abord un élève. Un élève, pour être un chacham, pour être un sage. Et pour être un sage, il faut d'abord être un élève. Donc cette verticalité qui fait que j'aurai toujours besoin de quelqu'un d'autre pour étudier, en même temps quelqu'un d'autre pour m'enseigner la Torah, fait que j'acquiers la hanava, j'acquiers la modestie, et donc aussi une certaine forme de pudeur, et donc une barrière mentale et psychologique et émotionnelle très forte face au lashon hara. C'est quelque chose qui peut, à un moment donné, me pousser à penser que la personne sur laquelle je vais parler est peut-être bien mieux que ce que je pense, parce que je fais l'expérience du besoin de l'autre dans une expérience très positive qui s'appelle l'étude de la Torah, c'est-à-dire l'acquisition, la connaissance et l'intégration intime de la pensée divine. Voilà, donc il y a ici une expérience formidable. C'est cette expérience ici qu'on va décrire de manière entre guillemets négative dans Parashat Hazia Bessora, parce que là, on nous parle des punitions qui frappent le bas de la cheminée. Mais ça doit ouvrir une réflexion sur la manière positive, finalement, d'éviter donc cet avérin. Voilà, Shabbat Shalom à toutes et à tous, Bezrat Hashem, que la paix règne en Israël. Je parle à l'intérieur du peuple juif, que le Shalom s'installe. On vient de traverser une période de quelques jours avec des feux intenses. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ces feux, ils sont un peu le reflet du feu de la marloquette, du feu de la dispute qui divise, qui jette les gens les uns contre les autres. J'ai essayé, lors d'une émission sur Yom HaTzmaout, sur la chaîne I24, de ramener un petit peu le jeter des ponts. Je me suis rendu compte que ce n'était pas simple. Je crois qu'il ne faut pas désespérer. Am Yisrael Ta'am Kadosh, qui flaire la sainteté et qui flaire et qui aime, je crois, la diversité, c'est vrai, mais aussi l'union et la capacité à débattre sans finalement se fracturer. Voilà, Shabbat Shalom à toutes et à tous.
Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Et Shabbat Shalom. Rav Gay, la parole, c'est quelque chose qu'on doit utiliser avec beaucoup de réflexion, mais c'est surtout quelque chose, contrairement à ce qu'on croit, qu'on peut corriger. Et c'est sur ça que vous voulez intervenir ce soir.
Effectivement, nous allons lire ce Shabbat deux parashiot, Bria et Metzora, toutes les deux consacrées en grande partie à la sanction que Dieu impose à celui qui parle, qui parle mal. On appelle ça le tzara'at, donc la lèpre en français. Et en fait, c'est une maladie plutôt spirituelle, même si elle apparaît dans le corps. Elle a pour origine, en général, et pas seulement, mais surtout, une parole, de la médisance, ce qu'on appelle le lashon hara. Et on impose à celui qui découvre une plaie sur sa main ou sur son corps, tout simplement, l'isolement. Badad Yeshev, il sera assis, il sera donc isolé dans, à l'extérieur du camp. À l'époque, donc, on parle de d'Ebné Israël, les enfants d'Israël dans le désert. Donc, il y a un camp. Et il doit s'isoler de tous les camps, même du camp d'Israël. Et lorsque quelqu'un approche, il doit dire tamé, tamé, il doit déclarer qu'il est impur pour éloigner toute velléité de prendre contact avec lui. Cet isolement s'explique de façon très simple. Il a dit du mal des autres. Donc, il a éloigné les hommes, un homme de Sepsambal en le stigmatisant, en disant du mal de lui, même si c'est vrai, d'ailleurs. Et on lui impose Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Toi, tu as isolé cet homme des autres. Tu l'as mis au banc de la société. Mais toi aussi, tu vas être isolé 7 jours, 14 jours des fois, et voire encore en plus, jusqu'au moment où tu seras guéri de cette lèpre. Eh bien, combien la loi, combien la Torah a voulu corriger, punir, sanctionner même cet homme. Pour pouvoir se guérir, il faut que le Kohen, pas obligatoirement le grand prêtre, mais un Kohen, le visite et constate que la plaie, on appelle la Negat Tzara'at, s'est rétrécie ou a disparu. Et à ce moment-là, il peut retrouver les siens, mais seulement après tout un processus de purification complexe. Donc tout ça pour nous montrer combien la Torah a insisté sur la guérison nécessaire de cette parole. Pourquoi la parole ? Parce que la parole, elle a une puissance particulière, on en est tous conscients, mais comme on parle facilement et on ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on nous disons, eh bien malheureusement il y a souvent des conséquences très fâcheuses. Mais la parole, elle a une puissance parce que lorsque Dieu crée l'homme, c'est écrit « Vaïpar be'apav nishmat ra'im », il a insufflé en lui une âme de vie. « Vaïhi adam le nefesh raya », l'homme est devenu une âme vivante. Traduction de Onkelos, le fameux traducteur araméen, « Ruach memalela », un homme doué de parole. C'est-à-dire que lorsque l'âme pénètre dans le corps, ce qui se passe, c'est que l'homme peut parler, et c'est ce qui nous distingue des animaux. Nous avons une parole. Ils ont des signaux ils s'envoient les uns aux autres, mais nous, nous avons la parole, une parole très élaborée et qui nous distingue des animaux, mais qui nous rappelle aussi le fait que c'est au moment où l'âme a pénétré le corps, le morceau d'argile à l'époque que représentait le corps de l'homme, que la parole est apparue. La parole est en fait le moment où le corps et l'âme se fusionnent, et il représente justement ce point de jonction entre âme et corps. Je vais l'expliquer d'une façon très simple. C'est parce que Lorsque je dis, évidemment, pas de paroles simples comme il fait jour, il fait nuit, j'ai froid, j'ai chaud, il s'agit tout simplement d'une vraie parole, une parole puissante, une parole chargée d'émotions, une parole profonde. Cette parole-là, elle associe la spiritualité à la matérialité. On utilise des termes, on utilise des métaphores, on utilise des images puisées de ce monde matériel, et en même temps, on véhicule avec cela des connaissances, des savoirs des fois très profonds, et des fois des émotions très profondes, et on arrive à transformer, transcender l'homme, à des fois impacter de façon très durable notre semblable par cette parole. Donc la parole étant le résultat de cette âme divine mélangée au corps, eh bien, elle a évidemment un impact particulièrement puissant. Les Havdil et les Favdalot, elle peut aussi avoir un impact extrêmement destructeur. On sait combien Hitler, il marche mauvais zicho, par sa parole, il a transformé une nation entière en bêtes sauvages, en animaux en barbares, alors qu'ils étaient des hommes instruits et cultivés. On voit donc une parole destructrice et on voit en même temps une parole constructive, celle de Moshe Rabbeinu, qui nous transmet la Torah et qui change le monde, ou d'autres grands sages qui ont pu, dans l'histoire, par leurs paroles, changer, ou d'autres qui, par leurs paroles, font faire tchouva à des gens, qui font faire des mitzvot aux autres. Des paroles de construction, des paroles puissantes. Grâce, justement, à cet influx divin qui se mélange donc à la parole, qui est donc, évidemment, on sait bien, grâce aux cordes vocales et aux lèvres, ça, c'est la partie matérielle, mais évidemment s'associe à cette parole matérielle à une dimension spirituelle très puissante. À tel point que lorsque un enfant naît, on nous dit que l'ange le fait tout oublier, il oublie toute la Torah qu'il a appris dans le corps de sa maman, le fœtus apprend toute la Torah, et il l'oublie au moment où il sort du ventre de sa mère, parce qu'un ange touche juste les lèvres, et il le transforme, il oublie tout. Et le Maharal de Prague explique que ce n'est pas, comme on le comprend, simplement un coup de baguette magique, il s'agit tout simplement de lui donner la parole. À partir du moment où tu accèdes à la parole, tu oublies tout, parce que la parole représente le moment où l'âme et le corps fusionnent. Avant la naissance, il y a l'âme, il y a le corps, mais l'âme est assez indépendante du corps. À partir du moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, l'âme pénètre dans le corps, et à ce moment-là, il y a comme une sorte de bunker qui se ferme autour d'elle. Elle doit retrouver son créateur à travers un travail personnel, un travail acharné, à travers la recherche que doit avoir chaque être sur Terre pour retrouver son créateur. Et ça demande un énorme effort. Et c'est au moment où justement on touche la bouche de l'enfant, au moment où il commence à crier, il commence à s'exprimer, qu'il donc découvre la parole, qu'à ce moment-là, effectivement, il oublie tout parce que justement, c'est le moment de jonction entre le monde spirituel et le monde matériel, entre l'âme et le corps. C'est donc par la parole que ça s'exprime et que ça commence à apparaître. Justement, par la parole, nous allons redécouvrir Dieu, mais si on utilise cette parole pour détruire l'image d'autrui, on a fait exactement le contraire de ce pourquoi cette parole a été créée. Or, cette parole utilise les trésors que Dieu nous a donnés. S'il est utilisé à mauvais escient, mais effectivement, on va exactement dans le contraire, et c'est pour cela qu'Hachem nous demande d'être très vigilant, mais aussi lorsqu'on contrevient, on va à l'encontre de ces recommandations, eh bien, il nous isole, et il fait un miracle, vraiment un miracle, faire apparaître cette tsaraat lorsque on a mal parlé. Et il faut savoir que même si effectivement la parole est quelque chose, on va dire la tsaraat n'existe plus, je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment dans le monde moderne d'aujourd'hui, il y a eu encore des effets négatif par rapport à des paroles qui étaient des paroles destructrices. Cette histoire se passe avec le Rav Chaim Greinemann, Zicher Tzadik Livracha. Une personne vient le voir en disant qu'il a des maux de tête et qu'il souffre énormément des maux de tête, qu'il a rencontré tous les médecins du monde. Personne n'a trouvé de solution, personne n'a trouvé de problème particulier dans son cerveau, et donc on ne comprend pas, on n'a pas de solution, il a vraiment des grandes souffrances. Et le Rav, pour pouvoir répondre à sa demande, utilise ce qu'on appelle le Goralagra, c'est-à-dire qu'il ouvre un Tanakh, une Bible, avec des règles très précises, pour trouver dans le verset qui va tomber par hasard, entre guillemets, la solution au problème. Et il sort le passage suivant, Yahan Asher Dibarta Ve'Avdi Be'Moshe, parce que tu as parlé contre mon serviteur Moshe. Donc il s'agit évidemment d'Aaron et Myriam qui ont parlé contre Moshe Rabbeinu et qui ont dit du mal de Moshe. Et il lui demande, est-ce que tu as parlé d'un Moshe? Il se creuse la tête, il dit, mais je vois pas. C'était quelqu'un qui faisait très attention à sa parole. Et finalement, il se rappelle qu'il a beaucoup, beaucoup invectivé, pas insulté, mais il a parlé un peu mal de Rav Moshe Feinstein, de Hassadi Ivracha, qui était Niftar. J'étais moi-même à son enterrement. C'était donc le jour de Purim à Jérusalem. Shushan Purim, et il avait bloqué toute la ville, parce qu'il y avait 300 000 personnes à son enterrement, et donc toute la ville était en deuil, en fait, pour enterrer le grand Rav, mais c'était Purim, donc lui disait, il nous a gâché Purim, il a beaucoup insisté là-dessus, en parlant mal du Rav Moshe Feinstein. Donc le Rav Chaim Greinaman dit à cet homme, prends 10 personnes, et va demander Mechila près de la tombe de ce Rav Moshe Feinstein, c'est ce qu'il a fait, et vous avez compris, il a guéri de ses maux de tête, plus de maux de tête. Alors, évidemment, ça montre une grande madriga. Si Hachem envoie un message comme ça, c'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir ce petit message Hachem. Sans doute, c'était quelqu'un qui faisait très attention à sa parole d'une façon générale. Mais là, il a fauté. Il pensait évidemment à l'importance de Purim, au fait que c'est pas tellement l'ambiance de Purim à un enterrement. Mais c'était pas une raison d'incriminer le Rav Moshe Feinstein. Évidemment que non, et donc il a regretté et il a demandé Mechila, et son mal de tête a disparu. Donc on voit tout simplement que des fois on a des petits problèmes dans la vie, des fois on se demande quoi faire, une sigoula par-ci, une sigoula par-là. Peut-être l'idée que je donne à toute la communauté, c'est de se dire, peut-être je parle mal de quelqu'un, peut-être quelqu'un m'en veut, peut-être que j'ai sali la réputation d'une personne, c'est l'occasion de lui demander Mechila. Et peut-être beaucoup de choses peuvent disparaître si nous avons le mérite justement de comprendre que Hachem n'apprécie absolument pas la mauvaise parole, la médisance, et qu'en plus il envoie des châtiments pas très sympathiques, et donc autant faire très attention à notre parole. Tadria Metzora, c'est ça, nous apprendre à être très vigilants sur notre parole.
C'est très important ce que vous nous dites, que la parole est liée à l'âme. Parce que pourquoi on faute souvent avec le Lashon Hara? Et moi, je suis certain que je suis fautif de ça. Parce que comme ça n'a pas une matérialité, on croit que c'est pas, on croit que c'est moins grave. Et c'est la vérité. Et c'est très très important ce que nous avez dit ce soir. C'est comme par exemple le voleur qui dit oh mais ça lui manque pas, il est riche. C'est tout ce genre de prétextes qui nous font faire des choses graves. C'est très très important ce que nous avez dit ce soir, Rav Guy. Je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Avoir prêté attention, je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy ber.